France Bleu Gironde, midi, Antoine Plouzenec.
Bonjour Raphaël Rinjade.
Bonjour.
Alors, quel est votre titre exactement? En fait, je sais que vous vous occupez de coordination jeune public pour l'association qui encadre ce festival L'Étoile Filante dont on va parler jusqu'à 13h. En fait, vous êtes coordinatrice jeune public, c'est comme ça qu'on dit.
On peut dire ça comme ça, responsable des animations pour le jeune public.
Alors ce festival qui commence aujourd'hui, qui dure jusqu'à dimanche, l'Étoile Filante change de thème tous les ans cette année, la tête dans les étoiles. Quelle est l'idée un petit peu de la programmation de cette année?
Alors l'idée de la programmation cette année, c'est de se plonger, d'observer la voûte céleste, de se replonger dans l'espace, dans les rêveries aussi, la nuit. Voilà, c'est un peu plus large que seulement l'espace, les astres. Mais voilà, c'est de regarder... dans cette direction.
Donc on va lever les yeux au ciel, tout bêtement, tout en gardant les yeux rivés sur l'écran. C'est quand même ça qui est génial, parce que c'est la caméra qui a fait le boulot pour nous.
Exactement.
En cas de tenticolis, c'est quand même une super idée.
Voilà.
Donc, alors qu'est-ce qu'on y met dans une programmation jeune public? On y met forcément des films pour le jeune public, pour les enfants?
Alors nous, la question, notre cible principale, c'est les enfants. Et donc, on est particulièrement sur les enfants à partir de 3 ans, le premier âge auquel on commence à aller au cinéma, jusqu'à environ 12 ans, même si bien sûr les films qu'on propose aux enfants à partir de 3 ans, 5 ans ou 6 ans sont visibles par tous les âges et même les adultes et les grands même sans enfants. Mais on se focalise sur ces âges-là et on regarde quels sont les films qu'on peut proposer aux enfants à partir de 3 ans, à partir de 5 ans, à partir de 10 ans, pour essayer d'avoir un panel qui corresponde à tous ces âges.
Oui, parce qu'en fait, ça va des grands classiques du cinéma, type Citizen Kane, hein, parce que ça, je crois que vous l'avez déjà programmé. Ça vous est jamais arrivé, Citizen Kane?
Pas pour le jeune public.
Non, alors du coup, je me plante. C'est un film. En l'occurrence, c'était un film, un grand classique du cinéma, vraiment. Parce que l'idée, c'est effectivement d'emmener les jeunes au cinéma, mais une fois qu'ils sont habitués, qu'ils connaissent à partir de 8-10 ans. C'est peut-être là, justement, où on les initie à un autre type de cinéma. On sort des blockbusters et des films d'animation.
Cette année, par exemple, on propose en clôture du festival à notre jeune public de voir Chantons sous la pluie, en VO-STF.
C'est presque la même époque. J'étais pas si loin que ça. Et en tout cas, c'est du même côté. Alors, en VO-STF, on les initie donc à la version originale sous-titrée en français.
Voilà. Alors, on a plutôt une programmation en version française, puisqu'on s'adresse à des jeunes enfants, mais c'est justement l'occasion dans ce festival, surtout pour les films de la compétition et quelques films comme celui-là, Chantons sous la pluie, un classique qu'on préfère montrer en VO-STF plutôt qu'en version française. Donc voilà, c'est quand
même... Mais pourquoi d'ailleurs ?
C'est une comédie musicale avec des chansons qui sont en anglais et c'est un film sur le passage du muet au parlant où les voix ont une grande importance et on trouvait ça intéressant de pouvoir montrer ce film avec les voix des acteurs les voix originelles des acteurs du film.
Ce qui gâche rien puisque les versions originales... Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a de la chanson dans la langue originale, d'un coup, il y a comme un décalage entre la voix du doubleur en français, ou de la doubleuse d'ailleurs, et là tout de suite, ça décrédibilise un petit peu le film, non?
En tout cas, voilà, c'est le choix qu'on a fait pour ce film-là. C'est vrai que parfois c'est très bien fait, les doublages sont très bien faits, mais on trouve ça intéressant. Voilà. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'occasion de commencer à leur montrer des films en version originale sous-titrée, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, de regarder les films dans ces versions. Et c'est l'occasion de s'initier. Et voilà.
Alors, en plus, là, pour le coup, Singing in the Rain, donc. Hein. Mais quel est le rapport avec la tête dans les étoiles?
Alors,
s'il pleut, il y a des nuages, on ne voit pas nos étoiles.
Sur tous les films qu'on programme sont pas forcément tous sur le thème la tête dans les étoiles. En l'occurrence, le film qu'on a choisi de proposer en clôture n'est pas sur la thématique la tête dans les étoiles. Il y a des années où au moment de la clôture on passe des films en avant-première qui seraient c'est l'occasion de montrer une avant-première. En l'occurrence cette année, on a plutôt fait ce choix de programmer un classique du cinéma.
On se fait plaisir, quoi.
Exactement.
Bah oui, parce que c'est aussi ça, faire plaisir au public et se faire plaisir à soi. Et comment est-ce qu'on nourrit une programmation? Et d'ailleurs, est-ce qu'on choisit le thème avant de faire la programmation? Est-ce que c'est la programmation qui décide du thème? Ça, c'est des questions que je vais vous poser dans les prochaines minutes. Raphaël Rinjade, coordinatrice jeune public, donc, du festival L'Étoile Filante qui se tient à Pessac au cinéma Jean Eustache jusqu'à dimanche.
France Bleu Gironde, place des grands hommes.
Et mon invité ce midi, on parle cinéma avec vous, Raphaël Rinjade. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe du cinéma Jean Eustache de Pessac et particulièrement de la programmation jeune public. Comme en ce moment, c'est justement à Pessac jusqu'à dimanche, puisque ça a commencé aujourd'hui, le festival L'Étoile Filante qui s'adresse au jeune public. C'est formidable de pouvoir parler de tout ça avec vous. Vous vous rappelez du premier film que vous êtes allé voir au cinéma ?
Ça devait être Rock Seruki.
Ah, le classique. Souvent, le premier film, à partir d'une certaine génération, j'entends, c'est un Disney. C'est le Disney de l'année.
À l'époque, c'était ça, ouais.
Est-ce que vous l'avez revu, là, récemment ?
Non, pas du tout. Je crois que je ne l'ai jamais revu, Rock Seruki.
Ah, ce serait une idée, tiens. C'est la prochaine fois que vous ferez une programmation animaux de compagnie. ça pourrait. Ça. Alors, je ne sais plus qui est. Rock, c'est le renard et Rookie, c'est le chien, je crois. Rookie, c'est le renard. Rookie. Voilà. Et donc Rox, ce serait le... Je ne sais plus. En tout cas, ils sont potes. Et donc, c'est marrant, ça. Premier film. Moi, c'était La Petite Sirène. Donc, vous voyez, c'était un Disney aussi. C'est comme ça. Vous le dites, hein. 3 ans, premier film. Clac. Et alors, justement, lorsque l'on fait une programmation jeune public, vous l'avez dit, c'est assez large. Ça va des 3 ans jusqu'au préado, finalement. Les tout-petits, ceux qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, on leur fait une programmation spéciale. J'entends par là une programmation sur notamment le format du film. Plutôt du court-métrage ?
Alors nous, on essaye de proposer pour les petits des programmes de court-métrage adaptés au niveau du temps. Parce que des petits 3 ans, c'est compliqué de rester dans une salle de cinéma pendant 1h30. Même si les enfants ont parfois l'habitude chez eux de regarder des longs-métrages, c'est pas tout à fait la même chose dans une salle de cinéma. Donc on a des programmes en général de 40 minutes, des programmes de court-métrage d'une quarantaine de minutes adaptés à cet âge-là.
C'est un métier, hein, la programmation, mine de rien. Faut penser à tout et notamment à ça. Et en l'occurrence, justement, la programmation du festival, on l'a évoqué il y a quelques instants. Est-ce qu'elle se fait en fonction d'un choix, d'un certain nombre de films que vous avez envie de montrer ? Du coup, vous trouvez un thème qui pourrait faire le pont entre tous ces films-là ? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est une thématique et là, vous vous creusez la tête pour amener des films vers le thème ?
Alors, ça dépend des années. En l'occurrence, cette année, la tête dans les étoiles, c'est parce qu'il y avait une envie. C'est vrai qu'on a été particulièrement nous intéressés par, dans ces dernières années, par Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, Rosetta et Philae, tous ces événements qui ont été assez médiatisés et qui nous intéressent, qui nous ont plu. On avait envie de se tourner de ce côté-là aussi avec une programmation cinématographique. Et avant de valider la programmation, en fait, on regarde les films qu'on pourrait proposer et pour tous les âges, on s'assure qu'il y a des films à proposer aux plus petits, aux plus grands, et on s'assure surtout que ces films sont distribués et on peut les avoir dans une salle de cinéma, parce que c'est pas parce qu'un film existe qu'on le connaît qu'il est distribué et qu'on peut le projeter en salle de cinéma. Donc ça, c'est notre travail de regarder ce qui est possible, et une fois qu'on se dit qu'il y a un panel de films qui couvre des 3 ans jusqu'à 12 ans à peu près, on valide le fait du thème, enfin le thème, et après on continue de travailler pour arriver à une programmation de 10-11 films sur la thématique.
Et voilà. J'imagine en plus que certains films étant plutôt rares, déjà pour avoir une copie, c'est comme ça qu'on dit, parfois faut se lever de bonne heure, et puis vous devez recevoir un petit peu de tout, des copies en numérique, des copies de films en pellicule, à 35 mm, la fameuse, avec le son qui est dessiné sur le côté de l'image, qui fait figure d'ancêtre aujourd'hui.
C'est ça.
Il faut savoir tout faire fonctionner, quoi.
Ouais. Alors, on a la chance, nous, au cinéma Jean Eustache, sur les 5 salles de cinéma, on a 3 salles qui sont équipées, donc avec des projecteurs numériques, mais aussi avec des projecteurs qui permettent de passer de la pellicule 35 mm. Et par exemple, sur une programmation comme cette année de 10 films sur la thématique, 3 films n'ont pas été numérisés et ce sont des copies 35. Les spectateurs qui verront ces films auront la chance de voir des petites rayures, des petits claques. Un film qui, du coup, n'est peut-être pas aussi parfait. On n'a plus tellement l'habitude d'avoir ces petites imperfections sur les copies. Mais ça a son charme, que particulièrement, moi, j'aime, j'aime particulièrement.
Ouais, et puis ça doit faire plaisir au projectionniste en plus, qui du coup remet les mains dans la machine, parce que
exactement.
Pas compliqué, une copie numérique, il suffit de la rentrer dans le diffuseur, enfin dans le projecteur, après il n'y a plus qu'à appuyer sur play, et puis c'est fini. Alors que là, il faut le monter avec ses petites mains.
Faut la monter, il faut la démonter, il faut lancer le projecteur dans la cabine, et on ne peut pas se contenter d'être à un autre endroit avec un terminal pour lancer la playlist. Donc oui, les projectionnistes sont ravis, j'imagine, de pouvoir projeter du 35.
On va continuer à parler avec vous, Raphaël Rangat, de ce festival L'Étoile Filante à Pessac jusqu'à dimanche. Et on va continuer justement de vous expliquer, à vous qui nous écoutez, comment est-ce qu'on fabrique une programmation, parce que tout ça, c'est super intéressant, mine de rien.
France Bleu Gironde.
Pessac fête le cinéma jeune public en ce moment, au cinéma Jean Eustache. Alors c'est à Pessac Centre, au bout du tram B. Et donc, on met la tête dans les étoiles. C'est la thématique choisie cette année par l'équipe de préparation de ce festival, dont vous faites partie, Raphaël Rangat. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur France Bleu Gironde. Alors je vois des titres de films, Jean de la Lune par exemple, Gros Blanc, qui, alors pour le coup c'est cet après-midi, Gros Blanc. D'autres types de Robinson et compagnie aussi, bah ça vous vous en souvenez peut-être. E.T. forcément, on peut pas passer à côté de ce film-là lorsque l'on fait de la tête dans les étoiles. Et Mars Attacks, alors effectivement, on est alors Spielberg si je me trompe pas pour E.T. et Mars Attacks c'est Burton. On est vraiment dans des cinémas qui sont totalement différents dans la durée, dans le type d'histoire qu'on raconte, dans la forme aussi, parce qu'il y a les images de synthèse, il y a les dessins animés, il y a les vrais films avec des vrais gens à l'intérieur, avec ou sans effets spéciaux. Enfin là, vous êtes fait plaisir, quoi.
On essaye de varier effectivement la programmation avec des films d'animation, des films en prise de vue réelle, en essayant de proposer aux jeunes spectateurs de découvrir des classiques du cinéma ou des films plus récents. Et puis après, il y a aussi tout le côté film en avant-première. Là, on est plutôt du côté de la compétition.
J'allais y venir, parce que effectivement, on va chercher dans les archives, on fait venir des films autour de cette thématique, mais il y a aussi la compète. Alors, c'est quoi la compète pour le festival L'Étoile Filante de Pessac?
Alors, on propose en général 7 films en compétition. Ce qui nous intéresse surtout...
Qui sont forcément dans le thème ?
Qui n'ont rien à voir avec le thème. Le thème, c'est vraiment un choix de 10 films, enfin 10, 11 films, ça dépend des années, sur la thématique qu'on accompagne de rencontres, d'ateliers, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et à côté de ça, en parallèle, on a une programmation donc qu'on appelle la compétition. Et là, ce sont des films qui sont des films... en avant-première la plupart du temps, ou qui viennent tout juste de sortir en salle, ce qui est le cas pour 2 des films cette année dans la compétition, ou carrément des films inédits qui pour l'instant n'ont pas de distributeur, où il n'y a pas de sortie prévue en France. Donc là, on est vraiment en dehors de la thématique, et cette proposition, on l'a fait surtout pour faire découvrir des films aux jeunes, et on accueille des jurys d'enfants qui voient ces films, et l'idée est surtout de parler de cinéma, d'argumenter. Ils sont une dizaine à chaque fois par jury, on a 4 jury d'enfants, et ils discutent de cinéma entre eux pour choisir le film qu'ils auront préféré à l'issue de leur visionnement.
Donc, mine de rien, le festival qui dure en ce moment, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est pas que pendant la semaine du festival, c'est aussi bien avant, bien en amont, puisque tout ça se prépare évidemment. Donc ça, vous allez nous le raconter dans la suite de ce Place des Grands Hommes qui vous est consacré, Raphaël Rangat, coordinatrice jeune public du festival Étoile Filante, et plus généralement d'ailleurs du cinéma Jean Eustache de Pessac. On continue avec Julien Doré, et ensuite nous irons également faire un petit tour visiter notre patrimoine girondin à La Rivière précisément, grâce à Marie-Corinne Caïto qui pousse les portes du château.
France Bleu Gironde. France Bleu.
Nous sommes dans France Bleu Gironde midi, et comme d'habitude, il y a Place des Grands Hommes, et votre invité aujourd'hui, c'est vous, Raphaël Rangat. Vous êtes la coordinatrice jeune public, vous vous occupez de toutes les animations, de la programmation du festival L'Étoile Filante en ce moment à Pessac, mais aussi globalement à l'année de la programmation jeune public du Jean Eustache, le cinéma pessacais. Mais maintenant, on va sortir de Pessac, on va aller faire une petite promenade grâce à Marie-Corinne Caïto dans Pierre et Nature, qui nous propose cette semaine de découvrir une commune girondine, et pendant toute la semaine, on va partir à la rencontre contre des hommes et des femmes qui la font vivre. Et cette commune s'appelle La Rivière. Direction le Front Sadet avec vous, Marie-Corinne.
La Rivière, c'est ce petit village de 415 habitants en bord de Dordogne. Pour commencer cette balade auprès des riviérois et riviéroises, visitons une magnifique propriété surplombant les vignes avec une vue imprenable sur la Dordogne. Au loin, on aperçoit même le pont d'Aquitaine à Bordeaux. Installons-nous dans la salle d'armes. Sous la porte d'entrée, le blason du château attire le regard. Pierre Rebaud, responsable commercial et passionné du château de la Rivière, le décrit.
Alors vous avez en haut à gauche la croix des Templiers, qui marque le passage des Templiers au moment des croisades. Et également, en son centre, le lion ou un léopard qui est assimilé à la famille Plantagenet, famille très connue dans la région. Et si vous regardez bien, vous avez la queue qui se divise en deux. Et celle-ci représente les deux rivières qui vont ceinturer l'appellation Fronsac, qui sont l'Isle et la Dordogne. Théoriquement, ces deux rivières protègent le vignoble de la grêle et de la gelée.
Un vignoble au cœur de l'histoire du château de la Rivière, une histoire qui est très ancienne.
On a la première date qui est 769. À cette époque, on a Charlemagne qui demande de faire ériger une tour de guet sur la motte de la rivière pour alerter le camp militaire de Fronsac qui est situé à quelques encablures de là. La première date ensuite qui suit, c'est 1230. Depuis cette époque, on a le nom de tous les seigneurs de la rivière. Et après la Révolution française, les noms des propriétaires. On sait qu'il y a eu un château fort qui était présent sur le château où nous sommes, qui n'avait pas le style Renaissance qu'on le connaît.
Alors moi, je me sens bien dans cette salle d'armes. J'aimerais bien, comme il y a plein de petites chaises, est-ce qu'on peut s'asseoir pour que vous nous racontiez l'histoire, mais surtout... Je m'installe. Mais surtout, nous présenter cette imposante bâtisse.
C'est très grand et sans être très grand. En fait, le château a été posé sur cette butte de la rivière de manière à ce qu'il fasse imposant. Mais en définitive, vous voyez, la largeur de cette pièce correspond à la largeur du château. C'était plutôt un château d'apparat. La seigneurie de la rivière était très grande. Alors, elle dépendait du duché de Fronsac. Et elle courait de la rivière jusqu'à Goriac, à côté de Blaye, et descendait par jeu de mariage jusqu'à la Brède. Et à l'époque, la zone qui entourait le château était une zone polyculturelle. C'était pas uniquement du vin. Le vin est venu de manière quasi majoritaire au 19e siècle, en fait.
Oui, assez tard, en fait.
Assez tard. Il y avait déjà du vin, mais il y avait plein d'autres choses à côté.
Plein d'autres choses, ça veut dire quoi?
Tout ce qu'il faut pour vivre dans une, entre guillemets, une ferme. Parce que finalement, c'était ça à l'époque. Vous aviez des bovins, vous aviez du maïs, vous aviez des poules, tout ce qu'il faut pour vivre. Ou survivre.
Et alors, on va faire un bond maintenant au 21e siècle. Il se passe encore des choses ici au château de la Rivière.
Alors, il se passe beaucoup de choses, surtout aujourd'hui, mais il ne faut pas occulter le 20e siècle, qui était un siècle très important pour la propriété. Fin 19e, on a l'exploitation de carrières calcaires qui font 20 hectares, dont une que l'on utilise aujourd'hui, qui fait 8 hectares. Si on compile, si on additionne toutes les allées, ça fait 25 km. Et ces carrières donc, ont servi pour construire des édifices dans la région. Dans ces carrières, aujourd'hui, on stocke le vin. 13 degrés toute l'année, quasiment 100% d'humidité et obscurité totale.
Cette cave souterraine, c'est la prochaine étape de notre découverte du château de la Rivière. On vous retrouve très vite dans les profondeurs de ce lieu hors du commun.
Avec des tas de surprises dans cette cave souterraine, dans une ambiance particulière. Alors des bouteilles de vin, oui, des salles aménagées dans la pierre, des barriques et même des chauves-souris, figurez-vous. Vous aurez besoin de votre lampe torche pour la suite de cette visite du château de la Rivière avec Marie-Corinne Caïto, que l'on retrouve à la page de Pierre et Nature sur francebleu.fr. Ça, Raphaël Rinjade, ça vous parle, la rivière? Vous m'avez dit, je connais bien la rivière.
Non, je connais bien parce que j'ai des amis qui habitent à la rivière et qui ont un château juste à côté du château de la rivière.
Comme ça. C'est le château d'en face, quoi, finalement.
À côté.
Et pareil, il a une salle d'armes.
Non, pas du tout.
Il est plus modeste, plus petit, ouais. Peut-être. Bon, et alors justement, qu'est-ce que ça vous évoque d'entendre la visite de ce château-là? Parce que, enfin, rien qu'en écoutant Marie-Corinne Caïto, on se rend compte de la grandeur du lieu, quoi.
Je ne suis jamais rentrée dans le château de la Rivière, mais c'est vrai qu'il est imposant quand on est à la Rivière. Il domine l'espace, enfin, le lieu.
Il a du charisme dans le paysage.
Voilà.
Alors, votre cinéma également, le Jean Eustache, alors il est peut-être un petit peu discret, ils se font bien dans le paysage, sauf à partir du moment où on allume les néons, les affiches, et là, d'un seul coup, hop, on peut rentrer. En ce moment, d'ailleurs, au Jean Eustache de Pessac, on y trouve une programmation jeune public, parce que c'est le principe de ce festival jusqu'à dimanche, ça s'appelle les Toiles Filantes, et nous allons continuer à en parler avec vous juste après Duffy.
France Bleu Gironde, 11h-13h, Antoine Plouzenec.
Et mon invité aujourd'hui, Raphaël Rinjade, avec qui nous avons la tête dans les étoiles, puisque vous faites partie de l'équipe du cinéma Jean Eustache à Pessac, cinéma qui accueille la 14e édition tout de même du festival de cinéma jeune public Les Toiles Filantes. Alors c'est d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. La fin de la compétition par contre, on connaîtra la remise des prix, enfin la fin on va dire officielle du festival, c'est samedi. Donc on ne sait toujours pas qui c'est qui a gagné.
Ah ben non, on ne sait pas qui a gagné. Entre aujourd'hui et samedi, on va recevoir Alors, le public va pouvoir aller voir les films de la compétition et le public est invité, après chaque film, chaque séance de la compétition, à voter avec des bulletins qu'on remet quand ils rentrent dans la salle. Et puis, on accueille 4 jurys d'enfants de 8 à 11 ans, un jury de jeunes de 11 à 15 ans et 2 jurys de professionnels adultes qui vont voir tous ces films, ou presque tous ces films, et qui vont délibérer, choisir, se mettre d'accord pour chaque jury remettra son prix au film qu'il aura choisi. Voilà. Et ça, ce sera samedi 24.
C'est chouette d'intégrer le jeune public justement dans le processus de sélection, dans le processus de désignation du vainqueur. Et comment vous les sélectionnez? J'imagine que ça ne se fait pas à partir d'aujourd'hui. Le festival, en fait, pour toute la partie préparation, ce genre de choses-là, ça commence un peu avant.
Effectivement, on commence alors dès le printemps, là, quand l'édition se finira, on commencera à réfléchir à la thématique de l'année prochaine. Et puis, on commence vraiment à travailler sur la programmation un petit peu dans le courant de l'été quand on fait notre programmation annuelle, puisqu'on indique dans notre programme annuel pour les petits amoureux du cinéma la thématique et puis quelques films déjà qu'on sait qu'on programmera. Et puis après, on travaille vraiment de manière plus intense à partir de mi-novembre, début décembre, sur la préparation du festival, donc finaliser la programmation de la compétition et de la thématique, mettre en place les partenariats, inviter des réalisateurs,
ben oui,
des gens
qui
ont travaillé sur les
films. Parce que c'est un festival, donc il y a des gens à rencontrer, il y a des invités à connaître. Et là, en l'occurrence, qui est-ce que vous avez invité cette année?
Alors, on a invité Jacques Colomba, qui a réalisé un film qui s'appelle Robinson et compagnie, qui sera présenté mercredi après-midi, pour une séance unique, en sa présence. Donc il sera là pour rencontrer le public. On a invité aussi sur un des films de la compétition qui passe jeudi et vendredi, qui s'appelle Un jour ça ira, qui est un documentaire de Stan et Edouard Zambo. Donc les deux réalisateurs seront présents jeudi pour parler de leur film. Voilà nos invités.
C'est déjà bien d'en avoir trois. oui, c'est ça à peu près. Hein. C'est de toute façon... comme on est sur, on est plus sur du montrer que sur du rencontrer de toute façon, quoique. Il y a quand même pas mal d'ateliers, me semble-t-il.
Alors, il y a de très nombreux ateliers. En fait, le principe, c'est que les films de la thématique, les 10 films de la thématique, sont montrés en moyenne à peu près 3 fois chacun. Et on essaye de proposer sur chacune de ces projections une animation ou un atelier. Donc, ça peut être d'un atelier que nous, on met en place au sein de l'équipe, qui va être plutôt un atelier plastique qui sera réalisé après la séance. Ça peut être aussi une rencontre dans la salle, par exemple, dans la semaine Cap Science, qui est un de nos partenaires cette année,
animateur de
La Tête dans les Étoiles, Cap Science. Ils viendront faire une sorte de conférence, rencontre avec le public sur la vie dans l'espace, qu'est-ce que la vie dans l'espace. Et puis, il y a aussi, par exemple, avec un de nos partenaires habituels, qui est l'Écocide du Bourgail, sur Pessac, qui organise une balade au crépuscule après la projection de Mune. Ça, c'est mercredi soir. Voilà, on a toutes sortes de différentes propositions et je crois qu'on a plus d'une trentaine de propositions sur les différentes séances de la semaine.
Le programme est complet, il est varié, il est à retrouver sur l'étoilefilante.org et sur le site également du cinéma Jean Eustache. On continue avec Claudio Capeo, l'homme reste debout, et puis nous on va également accueillir un autre homme debout aussi, tant qu'à faire, Michel Cardoz, qui va nous emmener faire un petit tour au marché dans les prochaines minutes sur France Bleu Gironde.
France Bleu Gironde, place des grands hommes.
Et dans Place des Grands Hommes, aujourd'hui, nous parlons de cinéma jeune public avec Raphaël Rinjade, qui fait partie de l'équipe du cinéma Jean Eustache, et donc en ce moment, sur le pont, pour Les Toiles Filantes, le festival de cinéma jeune public qui se tient à Pessac jusqu'à dimanche inclus, avec la compétition, avec un paquet de films de différentes durées, de différents formats, de différentes techniques également, puisqu'on a parlé de la prise de vue réelle, mais on a aussi de l'image de synthèse, du dessin animé, parfois même, tout ça c'est un peu mêlé. C'est le cas dans Mars Attacks qu'on pourra voir durant la programmation. Et alors là, pour le coup, grâce à Michel Cardoz, c'est pas du tout au cinéma qu'on va, c'est même pas dans les étoiles, non. On reste dans la métropole de Bordeaux et on va parler avec vous, Michel, de cette petite révolution qui a eu lieu dans les années 60.
1963, le petit matin du 19 février ne ressemble pas aux autres. Le commerce de gros des fruits et légumes s'installe au marché de Brienne, dit marché d'intérêt national, MIN. Et il quitte ce marché de gros, les Capus, le marché des Capucins, lesquels Capucins, après aventures diverses, démolition des pavillons de style Baltar, création d'un parking, sont devenus aujourd'hui un marché de détail quasi festif et amical. Mais le temps des mandataires qui ceinturaient la place des Capucins avec leurs dépôts, leurs marchandises entassées débordant sur les trottoirs et leurs enseignes peintes sur les façades qu'on peut déchiffrer encore, la soupe à l'oignon à 6 heures du mat, ce temps est révolu. Place à la noria des camions semi-remorques sur les quais et aux grandes halles de Brienne. Pourtant, entre ce 19 février 1963 et aujourd'hui, la distribution a changé. Les grandes surfaces ont leur propre plateforme logistique. Le circuit court grandit, mais Brienne, lui, Brienne, se maintient au milieu de la transformation urbaine du sud de la métropole, avec ses immeubles de bureaux, ses logements en vue du fleuve, ses hôtels. La vieille halle en béton des anciens abattoirs, quai de Paludate, se fait discrète entre les immeubles neufs. Des décors les plus anciens subsiste au sud le restaurant Chiopo, qui est devenu Chic, Chicopo, et le spot des noctambules jazz et boîtes de nuit, plus près de l'ancienne passerelle Eiffel. Au fait, qu'est-ce qu'on en fait de cette promenade de fer? Un jardin partagé de fruits et légumes bio? Tiens, ça serait une bonne idée.
Ouais, effectivement, et on aura l'occasion sans doute d'en reparler avec Michel Cardoz sur France Bleu Gironde. Merci Michel, à demain matin. Ce sera sur France Bleu Gironde, juste avant 8h. Vous connaissiez cette histoire des Capus démolis, reconstruire, Raphaël?
Non, pas du tout, je ne connais pas cette histoire. Je ne suis pas à Bordeaux depuis si longtemps et c'est vrai que je ne connais pas bien l'histoire de Bordeaux.
Parce que vous étiez avant à Paris, entre autres.
Entre autres.
Et c'est là où, en fait, on se découvre un métier commun, puisque vous, comme moi, c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. Vous avez été projectionniste. Moi aussi. Enfin, c'est comme quoi, avant d'arriver à la radio ou dans la programmation, il s'en passe des vies et des choses. Donc vous aviez l'habitude, du temps où vous étiez projectionniste, c'était sur de la pellicule, c'était sur du 35 mm. On était bien loin des films sur clé USB.
Oui, exactement, parce que je travaillais comme projectionniste à la Cinémathèque française où on passait des films 35 mm, 16 et 70 mm parfois.
Ça aide à se faire une petite culture cinéma et à devenir finalement coordinatrice de la programmation jeune public.
En tout cas, j'aimais.
Entre autres.
Oui, entre autres. C'est vrai que j'aimais travailler avec le service éducation à l'image de la Cinémathèque française, d'ailleurs avec qui j'ai gardé des contacts. Et pour la petite histoire, la programmation thématique de cette année d'Étoiles filantes a été faite en collaboration avec la Cinémathèque française, qui a pris la même thématique pour sa programmation jeune public hivernale. Donc on a une programmation commune, la tête dans les étoiles.
Comme quoi le cinéma n'est qu'une affaire de passionnés, comme beaucoup de thématiques où il faut des passionnés pour faire tourner la boutique.
C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur France Bleu Gironde pour partager déjà votre passion. On a bien senti dans la façon dont vous parliez de ce festival et plus généralement du cinéma et du cinéma Jean Eustache de Pessac. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Raphaël Rajad. Je rappelle que toute la programmation d'Étoiles filantes, le festival qui se tient à Pessac jusqu'à dimanche, eh bien on la retrouve sur l'étoilesfilantes.org. Je vais bien sûr dans les prochaines minutes vous mettre tous les liens sur francebleu.fr à la page de Place des Grands Hommes. Bonne continuation, parce que là on en est qu'au premier jour. 7 jours de festival, ça use un peu, hein.
Oui, ça va être...
C'est bien, mais c'est usant.
Mais ça va être super. Et puis donc ce soir, on a l'ouverture officielle du festival avec en avant-première Croc Blanc d'Alexandra Spigares. Donc,
En film d'animation.
Première fois que Croc Blanc est adapté en film d'animation.
Et il fait partie de la compète.
Donc tout le public qui sera là ce soir pourra voter.
Bon, voilà. Donc allez faire un petit tour au cinéma Jean Eustache de Pessac. Et je vous laisse retourner justement jusqu'au cinéma, parce que je pense qu'on a quand même un petit peu besoin de vous. Parce qu'il y a toujours un problème à régler quand c'est un festival. On cherche toujours quelqu'un, il y a toujours le téléphone qui sonne. C'est le stress, mais c'est ça qui est bon.
Mais c'est super agréable.
À bientôt, Raphaël.
Merci beaucoup.
France Bleu Gironde.